I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le jeudi 8 février, Amélie Oudéa-Castéra, 45 ans, a été rétrogradée dans l'ordre protocolaire au sein du gouvernement. Elle reste dans l'équipe du Premier ministre Gabriel Attal, mais elle perd le portefeuille de l'éducation suite à une série de polémiques, notamment sa réaction mal perçue par les enseignants concernant le choix de mettre ses enfants dans le privé. Qui est Amélie Oudéa-Castéra? Pourquoi a-t-on autant parlé d'elle dans l'actualité ces dernières semaines? Et pourquoi a-t-elle dû quitter le ministère de l'Éducation? Réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Olivier Beaumont du service politique et Frédéric Goyard, spécialiste éducation au sein du service société. Le mardi 9 janvier, Gabriel Attal, 34 ans, est nommé Premier ministre en remplacement d'Elisabeth Borne. Frédéric Goyard, Gabriel Attal ne sera resté que 5 mois et 20 jours au ministère de l'Éducation. Est-ce qu'il était apprécié des enseignants ?
Certains, en tout cas, lui reconnaissent une capacité à incarner la fonction, on va dire, et à assumer ses positions. C'est-à-dire que quand Gabriel Attal décide de mener une réforme, il est droit dans ses bottes. Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui lui reprochent de faire de la com et de surfer sur des positions comme l'interdiction de l'abaya ou par exemple le port de l'uniforme et de ne pas prendre en compte les véritables priorités, c'est-à-dire le salaire par exemple ou les conditions de travail des enseignants.
Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale.
Deux jours plus tard, le jeudi 11 janvier, Amélie Oudéa-Castéra est choisie pour remplacer Gabriel Attal au ministère de l'Éducation. Elle était depuis mai 2022 ministre des Sports et des Jeux Olympiques. Olivier Beaumont, elle a plutôt convaincu à ce poste ?
Oui, son passage a été plutôt remarqué. En tout cas, ça a été salué par les professionnels du milieu sportif. Elle s'est distinguée dans le rapport de force qu'elle a eu avec un certain nombre de dirigeants de fédérations sportives. On se souvient du bras de fer qu'elle avait entamé, notamment avec Noël Le Graët et puis Bernard Laporte pour qu'ils soient démis de leurs fonctions. Et puis au ministère des Sports, elle s'est distinguée avec un certain nombre de mesures qu'elle a faites, notamment la généralisation des 30 minutes de sport à l'école et puis la lutte contre la sédentarité.
Avant d'aller plus loin, on va la présenter. Frédéric Goyard, Amélie Oudéa-Castéra a joué au tennis à haut niveau dans sa jeunesse.
Oui, dans sa jeunesse, c'était ce qu'on peut appeler un espoir du tennis français. C'était une jeune fille qui était même championne de France des moins de 14 ans, championne de France des moins de 16 ans. Donc elle était promise à un très bel avenir dans le tennis français et international. Et puis à 18 ans, juste après son bac, elle a décidé de prendre une année de césure. Vous savez, une année où on arrête tout, les études. Et à ce moment-là, elle a décidé de jouer au tennis pendant un an. Et au bout de cette année, elle s'est rendue compte que finalement, le tennis n'était pas fait pour elle. Elle n'avait plus envie, elle n'avait plus la foi, on va dire. Et elle a décidé de se consacrer à ses études.
Qu'est-ce que l'on sait de son enfance et de sa famille ?
Elle est née en 1978 à Paris, dans un milieu plutôt aisé. Son père est Richard Castéra, l'ancien directeur de Publicis, l'agence de communication, et aussi de la Croix-Rouge. Et sa maman, Dominique, elle, est l'ancienne DRH de Safran, le groupe aéronautique.
Amélie Castéra a fait l'ENA, l'École nationale d'administration, dans la promotion succession Léopold Sédar Senghor, celle d'Emmanuel Macron. Elle s'est ensuite mariée en 2006 à Frédéric Oudéa, un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui dirigera notamment la Société Générale. Amélie Oudéa-Castéra débute sa carrière comme magistrate à la Cour des Comptes. Plus tard, elle sera l'une des plus hautes responsables de l'assureur AXA, puis de Carrefour. Olivier Beaumont, est-ce qu'elle est proche de l'actuel président ?
Oui, elle est proche, ils se connaissent bien, ils ont toujours gardé des relations depuis leur passage commun à l'ENA. Elle avait d'ailleurs été pressentie en 2017 pour rentrer au gouvernement, au ministère des Sports. Finalement, Emmanuel Macron lui avait choisi à la place Laura Flessel. Et en 2022, justement, c'est elle qui va contribuer à l'élaboration du programme présidentiel du candidat Macron pour la partie sportive.
Chère Amélie, j'ai confiance, je compte sur toi, et tu l'as compris, tu peux compter sur moi. Je vous remercie.
Amélie Oudéa-Castéra est nommée ministre des Sports et des Jeux de Paris le 20 mai 2022. Elle est donc nommée ensuite ministre de l'Éducation cette année, le 11 janvier. Un portefeuille qu'elle va gérer en même temps que celui des sports qu'elle conserve. Après sa nomination, Frédéric Goyard, comment réagissent les syndicats d'enseignants ?
Pas très bien. On va dire qu'ils n'approuvent pas vraiment cette nomination. Je me souviens de Sophie Vénétité, qui est porte-parole du principal syndicat des enseignants du secondaire, qui me disait quelques minutes après cette nomination, ça va être une ministre à mi-temps. C'est-à-dire qu'il considère qu'entre les sports, et notamment les Jeux Olympiques qui arrivent 6 mois après, et l'éducation qui est un chantier énorme, cette ministre n'aura pas le temps de tout faire. Donc c'est peu dire qu'ils ne reconnaissent pas vraiment une légitimité à Amélie Oudéa-Castéra.
Le lendemain, le vendredi 12 janvier, le site d'information Mediapart indique que la ministre a fait le choix de mettre ses 3 fils dans un prestigieux établissement privé parisien, l'école Stanislas. Frédéric Goyard, présentez-nous cet établissement qui accueille des élèves de la maternelle aux classes préparatoires, donc après le bac.
C'est une école catholique privée, réactionnaire, diront certains. D'autres préfèrent parler de conservateurs. C'est une école où, par exemple, les baskets sont interdits. Les enfants doivent porter des chaussures en cuir. Les jeunes filles doivent porter des tenues opaques en haut. En revanche, c'est une véritable fabrique à élite, c'est-à-dire que les enfants sont acceptés sur dossier. C'est 100% de réussite au bac, 100% de mention. C'est l'école des enfants bien nés, j'ai envie de dire.
D'un mot, l'école Stanislas, on en a parlé aussi récemment dans l'actualité.
Oui, parce que l'école Stanislas est visée par une enquête interne, c'est-à-dire une enquête administrative lancée par le ministère de l'Éducation nationale suite à des articles de presse, parce que des intervenants auraient tenu, à ce moment-là, on ne sait pas encore, mais des propos homophobes, voire anti-avortement, en contradiction totale avec la législation française.
Le même jour, le vendredi 12 janvier, elle est interrogée par un journaliste sur ce choix de mettre ses enfants à Stanislas et sa réponse va provoquer une polémique.
Elle est en déplacement dans un collège des Yvelines, elle accompagne même le Premier ministre Gabriel Attal. On est quelques heures après la passation de pouvoir dans la cour du ministère de l'Éducation nationale. Ça se passe plutôt bien, hein. Le Premier ministre et la nouvelle ministre de l'Éducation font des selfies avec les collégiens, l'ambiance est plutôt légère, mais elle sait qu'elle va être interrogée sur la scolarisation de ses enfants à l'école Stanislas. Quand elle est enfin interrogée devant les micros, elle dit
« Alors très bien, on va aller sur le champ du personnel. Eh bien allons-y. Moi je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. »
Et là, elle parle de la scolarisation de son enfant qui, en 2009, avait 3 ans. Elle donne son prénom, il s'appelle Vincent. Et elle explique que si, avec son mari, ils ont choisi de changer leur enfant d'école pour l'inscrire à l'école Stanislas, parce qu'il y avait un paquet d'heures perdues.
La frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés.
Et qu'ils en avaient marre, tout simplement.
Et à un moment, on en a eu marre.
Comment réagissent les syndicats d'enseignants ?
Très mal, ils sont indignés. Ils parlent de propos lunaires et provocateurs parce qu'ils se sentent attaqués directement dans leur fonction d'enseignant. On sent bien que le fossé est en train, dès le départ, de se creuser entre les enseignants d'un côté et la ministre de l'autre.
Dans la foulée, quelques jours plus tard, nos confrères de Libération publient un article indiquant que dans l'école publique où était son fils, l'école Littré, la maîtresse n'était pas absente. Expliquez-nous ça.
Oui, on est à peine deux jours après la séquence du collège des Yvelines. Et là, nos confrères de Libération ont retrouvé l'enseignante qui s'occupait du petit Vincent, puisqu'il avait 3 ans à l'époque. Et ce qu'elle dit ne colle pas du tout avec ce qu'a raconté la ministre deux jours plus tôt. Elle dit que cette année-là, elle était très peu absente. C'est-à-dire que si d'aventure elle avait été absente, en plus elle avait été remplacée. Et la deuxième chose, qui est quand même aussi très importante, c'est que pour elle, si les parents de Vincent, c'est-à-dire Amélie Oudéa Castéra et son mari, ont choisi d'enlever leur enfant de Littré pour l'inscrire à l'école Stanislas, c'était parce qu'ils souhaitaient lui faire sauter une classe et que l'équipe pédagogique n'était pas d'accord avec eux.
Comment se défend Amélie Oudéa Castéra après cet article ?
Le dimanche, elle ne réagit pas et la seule chose qu'on va apprendre à ce moment-là, c'est qu'elle a appelé l'enseignante de son fils le soir au téléphone pour échanger avec elle et pour visiblement s'excuser d'après ce que dit son entourage.
Dès le lendemain, la ministre se rend sur place dans l'école où son garçon avait été scolarisé avant de rejoindre le groupe Stanislas, l'école Littré.
Elle sent qu'il faut faire quelque chose et surtout qu'il faut reprendre la main. Donc elle décide de se rendre le matin à la fin des cours à l'école Littré pour échanger avec les enseignants. Pendant une heure, ils vont échanger. Mais à son arrivée, mais aussi à sa sortie de l'établissement, il y a une dizaine de caméras. Et surtout, il y a des enseignants syndiqués qui sont là et qui crient des slogans hostiles. Donc c'est une séquence totalement ratée et même désastreuse pour l'image d'Amélie Oudéa Castéra.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette maison.
Le mardi 16 janvier, le président Emmanuel Macron organise une grande conférence de presse à l'Élysée, sous les dorures de la salle des fêtes. Vous êtes sur place pour Le Parisien, Olivier Beaumont, et l'une des questions porte sur le sort d'Amélie Oudéa Castéra.
C'est la grande rentrée du président de la République qui va s'exprimer devant 200 journalistes et c'est retransmis en direct, en prime time, multidiffusé sur toutes les chaînes. Donc c'est un événement très attendu et en pleine polémique Oudéa Castéra. La question arrive.
Vous avez fait de l'école la mère des batailles et vous avez encore annoncé plusieurs mesures ce soir et plusieurs chantiers. Peuvent-ils être menés à bien par la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa Castéra, qui est affaiblie d'entrée de jeu par une intense polémique et a-t-elle votre confiance pour continuer dans ses fonctions ?
Contre toute attente ou pas, j'ai envie de dire, en tout cas, Emmanuel Macron lui apporte un soutien ferme et franc.
La ministre a fait un choix pour ses enfants. Ce sont des choix individuels, personnels, je le disais, il faut les respecter.
Il reconnaît qu'elle a eu un propos public qui a été maladroit, mais qu'elle s'est excusée en même temps. Il envoie une forme d'encouragement à poursuivre et à persévérer à sa ministre, puisqu'il dit qu'il est certain qu'elle réussira à sa tâche avec les enseignants.
Bonjour et bienvenue dans les 4V, Amélie Oudéa Castéra.
Bonjour.
Le lendemain, le 17 janvier, Amélie Oudéa Castéra est sur France 2 dans les 4V, les 4 vérités, l'entretien de Télématin. Elle renouvelle ses excuses et elle tient à se montrer dans l'action.
Elle cherche encore à reprendre la main. Là, c'est sa première interview posée depuis la polémique, le début de la polémique. Donc là, elle fait en quelque sorte son mea culpa. Elle rappelle que si elle a blessé les enseignants, elle est vraiment, encore une fois, désolée.
Je les ai blessés, je les ai heurtés. Je le regrette extrêmement vivement.
Elle explique qu'elle n'aurait pas dû nommer l'école Littré.
Je n'aurais pas dû tenir ces propos-là et je n'aurais pas non plus dû nommer l'école Littré.
Mais elle est encore très très figée, on sent, elle a un sourire qui est bloqué sur son visage, donc c'est un acte de contrition mais pas vraiment réussi.
Le 21 janvier, nos confrères de Mediapart publient un article affirmant que son fils, comme des dizaines d'autres élèves de Stanislas, a profité d'un système pour contourner la plateforme d'attribution des places dans l'enseignement supérieur Parcoursup et pour être certain de pouvoir rester à Stanislas en classe préparatoire.
Parcoursup, qu'est-ce que c'est ? C'est la plateforme d'admission post-bac. C'est-à-dire que quand vous êtes bachelier, vous allez multiplier les vœux, c'est-à-dire vous choisissez les écoles que vous avez envie de faire. Et ensuite, ces écoles vont vous répondre et vous dire « Ok, vous êtes admis, non, on vous refuse ». Donc, qu'est-ce que fait en général un bachelier ? Il multiplie les choix pour se donner le plus de chances d'être admis, j'ai envie de dire, dans le maximum d'écoles possible. Et ensuite, il choisit. Mais ce qui s'est passé avec le fils d'Amélie Oudéa Castéra, c'est qu'il n'a fait qu'un seul vœu. Ce vœu, c'est Stanislas. Et on sait qu'en général, Que fait Stanislas ? Il demande à ses élèves de faire un seul vœu et ils savent par avance, j'ai envie de dire, alors que ça c'est contourner le système, ils vont être choisis par l'école.
Le lendemain, le lundi 22 janvier, l'AFP révèle les grandes lignes du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives en France. Ce rapport souligne les rémunérations très élevées, voire anormales, de plusieurs dirigeants sportifs, dont celle d'Amélie Oudéa-Castéra. Le chiffre était connu depuis novembre, quand elle était directrice générale de la Fédération française de tennis. Entre 2021 et 2022, elle gagnait plus de 35 000 euros nets mensuels, en comptant une prime importante. Olivier Beaumont, cette information, elle joue forcément en sa défaveur dans ce contexte ?
Oui, ça joue en sa défaveur parce que là, elle dit pour sa défense, elle dénonce en tout cas des propos militants dans ce rapport rédigé à des fins politiques, alors que ce rapport s'appuie sur des montants factuels, qui sont ceux de la rémunération qu'elle a touchée quand elle était à ses fonctions, et une défense d'autant plus maladroite que quelques mois plus tôt, lorsqu'elle avait déjà été auditionnée devant les députés de l'Assemblée dans un autre contexte, elle avait claironné qu'elle avait renoncé aux deux tiers de sa rémunération pour sa passion pour le sport, je la cite, avec cette phrase qui, quelques semaines plus tard, va faire écho « L'argent n'a jamais été mon moteur ».
Le 27 janvier, Amélie Oudéa-Castéra reçoit le soutien d'une grande partie du monde du sport en France.
C'est une lettre ouverte publiée par la Tribune dimanche. Ce sont 50 dirigeants sportifs, dont 20 présidents de fédération, ce qui n'est pas rien. Ces dirigeants, je les cite, apportent leur respect et reconnaissance envers une ministre qui a su depuis sa nomination être à la hauteur de sa fonction avec écoute, exigence et leadership. Et dans la séquence que vit la ministre de l'Éducation depuis le 12 janvier, c'est une sorte de respiration, on va dire, pour elle, un acte de soutien bienvenu, même si on peut imaginer qu'il a été un petit peu téléguidé.
Frédéric Goyard, pour qu'on comprenne bien cette polémique et ces polémiques à répétition, dans quelle mesure ça peut l'empêcher d'exercer en tant que ministre de l'Éducation ?
Parce que ça l'affaiblit. Je me souviens d'une syndicaliste qui me racontait que quand elle a vu la ministre de l'Éducation nationale, elle avait senti quelqu'un qui était très touché, qui semblait même vulnérable, affecté par ces polémiques concernant son enfant. Donc on sent bien que c'est une ministre affaiblie, qui reste engluée dans ces polémiques.
Le 2 février, le recteur de l'Académie de Paris, le chef de l'éducation dans ce secteur, Christophe Querrero, annonce sa démission après 3 ans dans cette fonction. Il dénonce une décision bien particulière prise par la ministre.
C'est l'ancien directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer quand il était ministre de l'Éducation nationale. Il est à la tête de la plus grosse académie de France, celle de Paris. Donc c'est un personnage qui compte dans le paysage. Et quelques semaines plus tôt, il avait indiqué qu'il allait fermer 4 classes préparatoires à Paris pour en ouvrir 3 autres différentes afin de favoriser la mixité sociale et scolaire. Le 31 janvier, par un tweet en plus d'un syndicat, il apprend que la ministre, Amélie Oudéa-Castéra, a décidé de suspendre la fermeture des 4 classes qu'il avait envisagées et qu'elle ne l'a même pas prévenu en plus. Il le vit comme un camouflé. Et il décide de démissionner.
Le même jour, Amélie Oudéa-Castéra est l'invitée de la matinale de TF1 présentée par Bruce Toussaint. Question, a-t-elle reçu l'assurance de rester ministre de l'Éducation ?
Il y a des interrogations sur votre maintien au gouvernement. Est-ce que vous avez eu des garanties du président et du Premier ministre sur votre maintien au gouvernement ?
Mais rien n'est garanti pour personne. Le sujet n'est pas est-ce que moi je suis garanti.
Le mardi 6 février, à l'Assemblée, pendant la séance des questions au gouvernement, Amélie Oudéa-Castéra est interpellée par un député socialiste. Ce jour-là, il y a eu une nouvelle grève dans l'éducation. Et Olivier Beaumont, dans l'après-midi, elle est interrogée pendant plus de 2 heures par les députés de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée.
Elle est interpellée effectivement, notamment par les députés de la gauche, sur la situation de l'école. Des allusions sont à nouveau faites sur la scolarisation de ses enfants par les députés de l'opposition. Et elle a cette phrase.
Silence. Opposer l'école publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge.
Là, clairement, Amélie Oudéa-Castéra se sent menacée.
Ah bah plus que menacée, on a vraiment le sentiment que ses heures sont comptées. La seule chose qui la maintient en vie, en survie même, c'est sa relation directe avec Emmanuel Macron.
Justement, on dirait que Emmanuel Macron ne semble pas favorable à l'idée de la voir partir du gouvernement. On sait pourquoi ?
Amélie Oudéa-Castéra, c'était son choix. C'est lui qui l'a imposé à Gabriel Attal pour devenir ministre de l'Éducation nationale dans ce super méga ministère incluant les sports, les Jeux olympiques et paralympiques. paralympique. Et donc pour lui, d'avoir à la débrancher seulement quelques jours après l'avoir nommée, ça serait une forme de désaveu qu'il ne veut pas assumer.
Et il n'est pas question de changer de ministre des Sports juste avant les JO.
Et il y a cette difficulté, effectivement. Les JO sont dans moins de 6 mois. C'est elle qui a piloté ces derniers mois ce dossier qui est lourd. Donc c'est très délicat aussi de la débrancher sur ce portefeuille-là.
Pendant le week-end du samedi 3 et dimanche 4 février, il y a des tractations sur le remaniement à venir, sur les noms de celles et ceux qui vont faire leur entrée au gouvernement. Et concernant Amélie Oudéa-Castéra, la décision est prise de lui retirer l'éducation.
Emmanuel Macron va se rendre à l'évidence au cours du week-end, d'autant que Gabriel Attal lui pousse vraiment pour la sortir. Il n'est vraiment pas à l'aise avec le maintien de cette personnalité dans son gouvernement. Il y a un nom qui circule, celui de François Bayrou, qui milite clairement en coulisses pour pouvoir occuper ce poste. Emmanuel Macron va avoir une autre idée. Un nom va commencer à circuler, celui de Nicole Belloubet, l'ancienne garde des Sceaux.
Le jeudi 1er février est une journée nationale de grève et de manifestation dans l'éducation nationale. Frédéric Goyard, vous êtes dans le cortège parisien et la ministre est souvent prise pour cible.
Une très grande majorité des banderoles la concernent. On trouve des messages comme AOC casse-toi, AOC assez. En fait, on voit bien que la cristallisation du mécontentement enseignant à ce moment-là touche vraiment Amélie Oudéa-Castéra. Tous les enseignants de l'école Littré, parce qu'ils ont été choqués par les propos de la ministre, les concernant, et même s'ils ont reçu ces excuses, ils tiennent à être là pour manifester leur désapprobation.
Le jeudi 8 février, la vague de nominations au gouvernement est dévoilée et l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, 68 ans, remplace donc Amélie Oudéa-Castéra à l'éducation. Frédéric Goyard, le lendemain, le vendredi, vous assistez à la passation de pouvoir entre les deux femmes.
On est quand même à la quatrième passation de pouvoir dans la cour du ministère de l'Éducation nationale en moins de 2 ans. Et puis surtout, en général, la passation de pouvoir, c'est l'opportunité pour le ministre sortant de défendre son bilan. Et là, bien sûr, Amélie Oudéa-Castéra, elle est restée que quelques jours. Donc elle n'a rien à défendre, à part un chapelet de polémiques qui ont égrené les dernières semaines. Donc automatiquement, son discours n'est pas bon. Et puis surtout, il n'y a aucune émotion avec les personnels. C'est complètement atone, quoi.
En ces derniers instants ici, c'est au mot de Mandela que je pense. Quand il nous dit... Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.
Les syndicats d'enseignants, ils disent quoi après ce nouveau passage express au ministère, après celui de Gabriel Attal ?
Il parle d'un désastre, C'est un peu ce qui symbolise le passage d'Amélie Oudéa-Castéra au ministère de l'Éducation nationale. Ils ne comprennent pas, en revanche, pourquoi le président de la République a attendu aussi longtemps avant de changer de ministre. En creux, on perçoit aussi que cette ministre très faible leur a permis de retrouver un petit peu de vigueur afin de pouvoir s'opposer aux réformes qu'a mis en place Gabriel Attal lors de son passage au ministère de l'Éducation nationale. Je veux parler bien sûr du fameux choc des savoirs, c'est-à-dire cette réforme majeure qui concerne le retour du redoublement, aussi les groupes de niveau collège et également des nouveaux programmes pour l'école élémentaire.
Et Nicole Belloubet, elle est perçue comment ?
Disons qu'elle a un peu plus de crédit que sa prédécesseure, tout simplement parce qu'elle vient, elle, du giron de l'éducation nationale. Elle a été professeure d'université, elle a également été rectrice. Mais il y a un autre aspect, c'est qu'elle n'a plus travaillé pour l'éducation nationale depuis environ 20 ans. Donc, ils se demandent tous si elle saura prendre la mesure de la grave crise que traverse l'éducation nationale en 2024.
Merci à Frédéric Goyard et Olivier Beaumont. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation, Julien Moncouquiole. Le Parisien vous propose un nouveau podcast jusqu'aux Jeux Olympiques, Le Sacre, présenté par Anne-Laure Bonnet. Chaque mercredi, un ou une médaillée d'or olympique raconte son chemin vers le sacre. Et puis n'oubliez pas, Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle.
Thank you.
when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.